Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 73. Cet entretien est avec David Lacomblède, directeur délégué à stratégie de contenu chez Orange. En plus de son côté visionnaire, David est un homme d'une grande finesse. Je suis sûr que vous serez étonné d'entendre sur quoi il travaille chez Orange. C'est un projet d'avenir qui devra voir le jour fin 2013. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Alors ce soir, enfin, j'ai pu inviter quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Il s'appelle David Lacomblède. Alors explique-nous qui tu es et ce que tu fais.
Bonjour Minter, je suis donc David Lacomblède, directeur délégué à la stratégie des contenus du groupe Orange. Je suis dans ce beau groupe depuis 2000. Je suis arrivé le 1er avril 2000, ça ne s'invente pas. La veille de l'éclatement de la bulle, d'ailleurs, Internet. Et j'ai cette chance de faire partie des pionniers du portail Wanadoo et d'avoir pu suivre toute l'évolution de l'Internet depuis bientôt 15 ans. Du modem 56K, souvenez-vous, de la minute qu'il fallait pour afficher la moindre page web. Et après, la DSL, bien évidemment, la télévision par ADSL également. Et aujourd'hui, donc, j'ai en charge la stratégie des contenus avec plusieurs sujets en particulier portant sur l'écrit numérique autour de la distribution du livre, notamment, qui est en France un nouveau sujet.
Alors, sur ces 12 ans que tu es chez Orange, enfin, et dans le numérique aussi, comment tu décrirais les plus grands changements que tu as pu expérimenter ?
Certainement l'évolution des débits, et on voit bien cette loi qui se vérifie également dans l'Internet. Plus les débits sont élevés, plus les besoins et la demande est élevée. Mmh. Et on l'a vu sur les autoroutes, plus on construisait de périphériques au large des villes, plus il y avait de gros camions dessus. Mmh. Et c'est exactement ce qui se produit sur Internet. Et on voit aujourd'hui des demandes toujours plus croissantes pour des films sur Internet, mais on le verra aussi avec la 4G qui est déjà en expérimentation aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'à Marseille sur les réseaux d'Orange, mais très certainement demain sur la téléprésence et après-demain sur l'interaction entre les personnes chez elles et des émissions de télévision par exemple.
Et alors quand on est sur la transformation du réseau du 3 à 4G, j'imagine, parce que je ne connais pas ce qui se passe en intérieur, il doit y avoir un moyen de mesurer l'impact sur les revenus, parce qu'il y a quand même un investissement énorme. Comment, parce qu'en fait, dans le 4G, on va pouvoir faire plus de vidéos, il y aura plus de choses. Est-ce qu'on est capable de bien mesurer la valorisation de cette capacité pour rentabiliser l'infrastructure qui doit être créée?
Alors, Orange a toujours une démarche très responsable en matière de contenu et c'était bien pour irriguer nos réseaux que nous avons investi dans la distribution de contenu. Dans la distribution et pas la production. On agrège des contenus faits par des professionnels. C'est pas notre métier d'industriel des télécommunications que de faire ces contenus. Mais au contraire, on prend le meilleur de chacun, on l'assemble, on l'agrège pour le distribuer à l'attention de nos utilisateurs et abonnés. C'est ce qu'on fait dans la télé, on diffuse près de 200 chaînes de télé par ADSL, c'est ce qu'on fait sur nos portails internet, orange.fr, ou si je dois prendre un exemple, on a une chaîne d'actualité qui est fabriquée par l'AFP pour l'essentiel, mais dans laquelle on peut avoir des émissions de plateau avec le Figaro, des sondages avec l'Express, etc. etc.
Et par ce biais, on va vous créer du contenu parce que vous faites la curation, quelque part, des gens qui sont censés, et c'est une création de contenu. Alors, pour nous qui essayent de suivre ça...
Et pour répondre à ta question sur le financement, effectivement, la qualité, une audience considérable, c'est plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois sur des contenus qu'on distribue soit de manière financée par la publicité, soit à l'acte. Si je prends de la VOD, effectivement, on est sur du paiement à l'acte.
Juste pour revenir là-dessus, en fait, donc on voit que Orange continue à grimper dans les strates des meilleurs sites visités en France. Et il y a aussi Dailymotion qui continue à bien fonctionner. Enfin, comment expliques-tu le succès derrière ça ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, on est sur un marché mature sur Internet. Et il nous fallait absolument avoir des têtes de gondole pour capter l'attention, mais aussi être dans relever les défis technologiques face à des géants mondiaux qui ont énormément de moyens. Et donc Dailymotion, l'acquisition de 49% du capital, il y a maintenant 18 mois de cela, était une réponse en audience, c'est 200 millions de visiteurs uniques à travers le monde, en technique également parce qu'ils ont une capacité technologique remarquable, et en publicité puisqu'on a cette audience mondiale. Sur la musique, notre réponse et notre engagement se fait avec Deezer, qui est l'offre de distribution unique du groupe désormais pour la musique en France, mais aussi dans d'autres pays, si on songe à la Pologne ou la Grande-Bretagne.
Alors pour revenir donc à ce que tu fais quotidiennement, explique-nous un peu plus ce que ça comprend, être directeur des contenus.
Alors aujourd'hui, de la stratégie des contenus, donc... Tout le défi, et c'est là où commence la difficulté, c'est de réfléchir et tenter d'avoir des idées. Une d'entre elles, je vais prendre un exemple, ça a été concrètement de créer un consortium en France, avec Orange bien évidemment, mais un autre opérateur qui s'appelle SFR, avec des éditeurs, Gallimard, Flammarion, La Martinière, le groupe Editis, avec des libraires physiques, sur une idée assez simple, c'est qu'un livre numérique ne pouvait pas offrir des services moindres que le livre papier. Et le livre papier est assez remarquable. D'ailleurs, c'est Umberto Eco qui disait « On ne peut pas faire mieux qu'un livre papier. Il est indépassable. C'est comme la roue, quelque part. » Et on ne comprendrait pas où est le progrès si on avait des services en moins. Et c'est vrai qu'un livre, il suffit de tourner la page et d'avoir une réglette qui s'appelle un doigt. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'électricité pour s'alimenter. Alors, en tant qu'opérateur...
Ah, c'est mieux de la nuit, quand même.
En tant qu'opérateur, soit en arrivant en disant on va rendre mobile vos téléphones, vos livres en les mettant sur un téléphone, c'était une promesse relativement maigre. C'est pour ça que nous, du point de vue de l'opérateur, on souhaite proposer à nos clients une solution dans laquelle on puisse s'engager sur deux choses essentiellement et deux promesses très fortes. C'est que le livre que vous achèterez par notre intermédiaire, vous en aurez toujours l'accès dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et on ne sait pas du tout à quoi ressemblera son téléphone à ce moment-là, bien malin celui qui le saurait.
Ni les supports, enfin il y a plein de choses qui vont évoluer.
Sur le support, et en plus, si d'aventure vous quittez Orange pour un autre opérateur, ça peut arriver, rarement, mais ça peut arriver, on maintient l'accès à sa bibliothèque personnelle dans laquelle seront les livres que l'on a acquis. Donc ça, c'est vraiment une réflexion de marché. On est en train de rassembler beaucoup d'acteurs de différents horizons parce qu'on est dans une logique conformément à ce que l'on sait faire. On ne veut pas produire et faire le métier d'autres à leur place, où chacun doit faire son métier. Un éditeur charge à lui de trouver les bons écrivains, charge à lui de mettre en page des livres. Un libraire charge à lui d'être un prescripteur, charge à lui de vendre aux lecteurs. Et nous, en tant qu'opérateurs, on pense que notre place est plutôt dans le gestionnaire d'une bibliothèque personnelle, parce que on peut être un tiers de confiance très fort. On le fait déjà en téléphonie. Si tu appelles quelqu'un au téléphone, ton opérateur sait exactement qui tu as appelé à quel moment, et pourtant il n'utilise jamais ces données pour t'envoyer ne serait-ce que de la publicité, par exemple, dans la minute par SMS. Ça ne se fait pas. Et donc nous, en tant que gestionnaire de la bibliothèque personnelle, on va prendre le même engagement.
Qui règne sur ce dernier point ? Enfin, est-ce qu'il y a une loi qui explique qu'on ne peut pas utiliser ça, ou c'est juste un choix de l'opérateur, ou il y a d'autres qui le font ?
On est sur un marché français qui est très, très réglementé sur les données personnelles. Ensuite, on est clairement dans un modèle ouvert, contrairement à d'autres modèles fermés, où quand tu as acheté, et on a tous vécu ça, de la musique via iTunes sur ton iPod, compliqué d'aller la lire sur un autre device ou sur un autre téléphone. Et c'est bien le contre-pied de cela qu'on veut prendre, parce qu'on connaît tous ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence du numérique, d'un fichier qu'on ouvre à un moment et qu'on n'arrive plus à ouvrir 2 ans après. C'est valable pour la culture, c'est valable aussi pour un fichier d'écrit.
Oui, bah, et de la musique. Alors, dis-moi, combien était important pour toi, pour vous, d'intégrer un autre opérateur dans le consortium? Est-ce que c'était juste super important ou c'était un plus?
Alors aujourd'hui, on a un autre opérateur, donc on a 2 opérateurs dans ce consortium, mais comme on a 2 ou 3 acteurs par catégorie de métier, puisqu'on agit en 2 temps. Je veux faire la démonstration dans un premier temps que cette très belle idée peut fonctionner. Et donc, on préfère faire un test à peu d'acteurs par catégorie avant de la développer et de l'internationaliser. On est soucieux du denier et donc on agit par ordre. Donc on fait ce qu'on appelle en langage technique un POC, un proof of concept, et donc qui débouchera sur un prototype. Et sur la base de ce prototype, on industrialisera derrière. C'est exactement ce que font les équipementiers de voitures. Quand ils construisent une voiture, ils en construisent une avant. Il faut monter des gens dedans pour voir si ça fonctionne, un bêta. Et donc, on a choisi, parce que SFR a choisi de nous rejoindre, d'avoir déjà 2 opérateurs qui représentent quand même une grosse part de marché en France. Mais notre pari, très clairement, c'est de convaincre les autres opérateurs de nous rejoindre en France, mais partout ailleurs. Parce qu'on est clairement dans un projet international. Tu ne comprendrais pas demain que de ne pas pouvoir acheter de livres anglais par le biais de ton opérateur français.
C'est sûr que, surtout quand, comme moi, en fait, quand on est international, c'est très embêtant d'avoir à changer son code login parce que j'ai un compte américain pour iTunes, pour mes livres et mes apps qui sont disponibles en iTunes là-bas, pareil en Angleterre, enfin, c'est un beans. Alors, le livre en France, Umberto Eco l'a dit, c'est quand même assez sacré. Comment est-ce que vous avez osé, comment est-ce que vous êtes arrivé à percer? Parce que pour moi, de vue de l'extérieur, j'ai l'impression de dire que le livre est tellement sacré que c'est compliqué ici.
Alors c'est pour ça que je ne parle pas du livre en termes d'opposition, mais de complémentarité. C'est pour ça que j'ai les libraires avec moi dans notre projet. Demain, je vais dans ma librairie au coin de la rue. Je passe en caisse avec le dernier Jean-Christophe Ruffin. Mon libraire me dit « Bravo, très bon choix, monsieur Lacomblède. Est-ce que vous voulez ce livre en papier comme vous l'avez pris ou est-ce que vous voulez en numérique dans votre bibliothèque personnelle ?»« Ah, en numérique, c'est une bonne idée, je vais tester. » »« Très bien, je vous ouvre les droits, quel est votre numéro de téléphone ?» En réalité, ce livre, c'était pas pour moi, c'était pour te l'offrir, cher Minter. J'arrive ici, je dis « J'ai une bonne surprise pour toi, j'ai un livre en numérique. » Quel est ton numéro de téléphone? Je te cède les droits via la plateforme ad hoc de mon gestionnaire de bibliothèque et ce livre t'appartient, comme dans la vraie vie. Je n'ai pas de raison d'avoir des services moindres que ceux que j'ai en papier. Autre exemple, le livre que je voulais acheter chez mon libraire au coin de la rue, pas de chance, il est en rupture de stock. Il me dit, je peux vous l'avoir pendant, dans 2 jours. Je lui dis, ouais, mais dans 2 jours, c'est loin. Oui, mais je peux vous ouvrir les droits numériques en attendant que vous ayez la version papier. Et il les referme le jour où je viens. Donc c'est exactement tous les cas d'usage qu'on est en train de répertorier actuellement pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne d'un point de vue réglementaire, bien évidemment, d'un point de vue technique aussi. Si je me permets de dire réglementaire, c'est qu'on est dans un pays qui a su sauver la librairie française en 1981, ne serait-ce que par la loi sur le prix unique du livre, et qu'on doit faire aussi avec ses contraintes, et c'est bien normal.
Où est-ce qu'on en est? Parce que je n'ai pas très bien suivi les prix des livres numériques et les pourcentages qui a droit par rapport aux livres traditionnels.
Alors, effectivement, il y a une loi en France qui fait qu'aujourd'hui, le prix du livre est numérique est aligné sur le prix du livre papier, avec une injonction de la communauté européenne de revenir en arrière et une taxe à 19,7 sur le livre numérique. Quoi qu'il en soit, si on transposait le prix du livre papier tel qu'il est aujourd'hui sur le numérique, on aura extrêmement de mal à faire décoller le marché. Et d'ailleurs, on peut voir qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui sont des marchés qui ont décollé ou qui sont en cours de décollage, les États-Unis, c'est 20% hein, du marché en volume et en chiffre d'affaires qui est en numérique. Grande-Bretagne, c'est 10%. On voit bien,
si on est où ?
On voit bien que ces marchés ont décollé parce qu'ils avaient une offre de prix qui était plutôt alignée sur le livre de poche en réalité, plutôt que sur le livre premium tel qu'il sort. En France, selon les études, on est entre 0 et les genres de 0,5 à 2%.
Wow. Parce que le Kindle, je pense que ça, ça fait partie, parce que l'objet, le, enfin, the device, c'est, ça, ça joue beaucoup dans la capacité d'avoir des facilités, le Nook. On n'a pas encore les devices qu'il faut non plus ici. Ça fait partie. Donc il y a un peu le marché traditionnel, le sacro-sanct livre en papier. Et puis encore, on n'a pas. Alors que l'iPhone était super bien lancé en France. Le Nook, le Kindle, je ne le vois pas beaucoup ici. Il faut qu'on ait ça aussi, non ?
Oui, il y a un cercle vertueux à initier. Et effectivement, il y a une offre disponible de livres qui est très faible aujourd'hui. Et donc, ça n'incite pas les lecteurs à les acheter parce qu'ils savent qu'ils seront très vite limités. Et donc, on a besoin d'une offre d'abondance dans le livre. Et une fois que le prix sera pris, on ne doute pas un instant que ça va générer une industrie de la création de tablettes parce qu'on n'a pas les mêmes besoins si on est étudiant ou professeur pour partager ou commenter une œuvre à un moment que si on est lecteur occasionnel dans un train entre Paris et Marseille.
Tu imagines pouvoir utiliser ces livres numériques dans les cours ? Parce qu'il y a une partie éducationnelle aussi dans ton consortium, enfin dans la vision ?
Éducationnelle et on intègre aussi, donc on est en discussion, oui, avec les représentants des ministères, notamment de l'éducation, d'une part, et d'autre part, sur tout ce qui concerne le prêt dans des bibliothèques. Demain, un citoyen ne comprendrait pas qu'il ne puisse pas prendre des livres en prêt dans sa bibliothèque, des livres numériques comme il le fait avec des livres papier.
Donc c'est des netbooks au lieu de Netflix ?
Ce seront des netbooks, effectivement, avec des bibliothèques qui seront ravies de prêter des livres en numérique, ne serait-ce que parce que ça leur prendra moins de place et donc très certainement moins d'espace à occuper sur l'espace public.
Alors ça, c'est pour le livre. Maintenant, sur les médias, les journaux, comment est-ce que tu vois l'évolution des médias digitaux enfin, aujourd'hui, qui sont pour toi les éléments phares, enfin les journaux phares qui ont bien percé, on va dire, sur le digital et voilà.
Je dirais qu'il faut que tout bouge pour que rien ne change. Plus sérieusement, on voit bien que, notamment dans le monde de l'information, les leaders de la presse ont réussi à être les leaders de l'Internet, avec certes quelques nouveaux entrants qui se sont faufilés. Nous en faisons partie, puisqu'Orange Actualité fait clairement partie des leaders de l'information en France. Néanmoins, il faut un cocktail d'informations qui réunissent des choses fortes, des journalistes qui savent écrire de l'information de qualité, des marques très fortes et reconnues comme telles, parce que dans un univers où tout pourrait se valoir, il faut à un moment pouvoir se raccrocher à des marques très fortes qui sont prescriptrices et valideurs de l'information.
Fact-checker.
Exactement. Mais on voit bien que les internautes savent parfaitement faire leur propre paysage d'informations personnelles. On pourrait appeler ça le PIP. C'est-à-dire qu'ils savent quelle est la valeur de leurs amis sur Twitter. Ils savent que ce sont des fournisseurs d'informations. Mais ils ont aussi un besoin de comprendre, d'analyser, de comparer leur propre analyse à un moment. Et ça, rien de mieux qu'un journaliste pour le faire.
Quelque part, enfin, ce qu'on fait dans l'habitude de consommer le journal en digital, ça doit aussi aider à faire tâche d'huile sur le livre, parce que c'est une habitude aussi le matin maintenant, le journal digital et le livre, pourquoi pas. David, merci beaucoup d'être venu. Comment est-ce que quelqu'un peut te... Enfin, tu as un dernier commentaire. Et comment, n'oublie pas de nous dire comment quelqu'un peut te suivre ou connecter avec toi, lire ce que tu fais, parce que je sais que tu es un bon écrivain.
Ça, c'est gentil. Le plus simple, c'est via Twitter, David_Lacomblède. Merci beaucoup, Minter.
Merci à toi, David.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
Hello, this is Gary Chahot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.